Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM.
Albert Einstein en était convaincu, le physicien n'est rien d'autre qu'un philosophe qui s'intéresse à certaines choses particulières, sinon, ce n'est qu'une sorte de technicien. Fin de citation. Les sciences sont des disciplines qui partagent avec la philosophie le même objectif de viser la connaissance par des justifications rationnelles. Et pourtant, sciences et philosophie sont également des disciplines qui s'excluent l'une l'autre. Par exemple, au lycée, on fait la part belle à la philosophie, dans le bac littéraire. Par ailleurs, si chaque science partage avec ses acteurs une méthodologie qui fait consensus, nous ne compterions pas sur la philosophie pour faire voler un avion ou fonctionner un ordinateur. Et pourtant, la philosophie a des choses à raconter à propos des ordinateurs, justement. Si les connaissances scientifiques peuvent produire des algorithmes, elles ne peuvent pas s'interroger sur la façon dont ils questionnent notre rapport au monde, à l'autre, notre libre arbitre, entre autres exemples. Est-il donc possible de laisser aux scientifiques les connaissances valides et aux philosophes le goût du vrai, et de se contenter de ce spécialisme? Les questions que soulève la recherche scientifique actuelle ne donnent pas cette impression. L'infiniment grand comme l'infiniment petit bouleverse notre rapport au réel, à l'espace et au temps, tant et si bien que l'on pourrait envisager, comme Stephen Hawking, que c'est maintenant la science qui porte l'étendard des grandes questions de l'humanité au XXIe siècle. Les connexions entre science et philosophie sont complexes et leurs débats toujours d'actualité. Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille Baptiste Lebihan aujourd'hui. Baptiste, tu es philosophe des sciences à l'Université de Genève.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir, et tu es et donc tu as commis un livre dont on a déjà parlé sur cette antenne dans l'émission Temps Libre, qui est « Qu'est-ce que le temps ?» chez Vrin. Alors précisons d'ailleurs par ailleurs que tu es philosophe des sciences, donc spécialisé sur le sujet scientifique, et que tu t'es intéressé tout au long de ta carrière aux sciences, et tu as continué à te former sur ce sujet en parallèle de ta formation philosophique.
Tout à fait, avec un intérêt pour la physique en particulier.
Et alors justement, ce qui est intéressant avec la physique, et on va sans doute en reparler, c'est que c'est une thématique... Alors, certaines physiques même, précisons, qui met en tension les réflexions et le lien entre science et philosophie. Alors, dans l'introduction, j'ai commencé par citer Stephen Hawking. Alors évidemment, ça fait pas forcément plaisir aux philosophes, puisqu'il annonce tout de suite la couleur, premier chapitre de son dernier bouquin, avant qu'il décède, donc dans The Grand Design. La philosophie est morte. Voilà, tout simplement. La philosophie est morte, vraiment, on peut dire ça, toi qui es philosophe.
Ouais, tu ne seras pas surpris d'apprendre que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette thèse de Hawking. Bon, on pourrait appeler ça une approche positiviste de la science, qui considère que la science n'a pas de composante philosophique, elle n'a pas besoin de la philosophie, elle s'est émancipée des réflexions philosophiques pour aller finalement répondre à des questions auxquelles on sait comment répondre, alors que la philosophie, elle, c'est un peu un vestige, c'est le vestige du passé, c'est cette discipline qui s'intéresse à des questions auxquelles on ne sait pas vraiment comment répondre, et donc elle aurait peu d'intérêt. Donc ça, on pourrait dire, c'est un peu la vision de Hawking. Après, cette vision-là de Hawking, elle n'est pas du tout partagée par l'ensemble des physiciens. On va trouver beaucoup d'attitudes assez différentes parmi les physiciens et les scientifiques en général sur ce qu'est la philosophie et ce qu'elle permet de faire. Alors bien sûr, pour expliquer pourquoi la philosophie n'est pas morte, il faudrait qu'on discute un petit peu de ce que c'est que la science, de ce que c'est que la philosophie, et qu'on essaie de comprendre un peu mieux quels sont les rapports entre les deux disciplines et comment ces rapports ont évolué au cours de l'histoire.
Mais c'est sans doute le sujet qui est sous-jacent, oui, puisque Stephen Hawking invoque, tu l'as dit, une certaine vision de la philosophie. Alors, vraisemblablement au moins biaisé, si ce n'est erroné, mais au moins biaisé et limité, dans un ensemble de disciplines qui est beaucoup plus large. Mais quelle vision de la philosophie il peut avoir pourquoi qu'elle puisse être morte? C'est la vision de la philosophie comme on faisait autrefois, si j'ose dire. C'est la vision de la philosophie avant que la science s'émancipe, du coup, si j'entends... si j'entends ça dans ta réponse. Alors, qu'est-ce que c'était cette philosophie à l'époque ?
Tout à fait. Alors peut-être je pense que la première chose à dire, c'est que la séparation même, de manière aussi nette, entre la philosophie d'un côté et les sciences de l'autre côté, c'est une évolution, c'est quelque chose d'assez récent.
Alors récent.
Qui s'est fait au cours des, on va dire, entre 16e, 19e siècle. Avec l'essor de la méthode scientifique, on a vu apparaître de nouvelles sciences extrêmement performantes qui ont pu s'émanciper en partie de la philosophie. Mais à l'époque, on parlait de philosophie naturelle pour désigner l'ensemble de cette recherche de connaissances. Donc à une certaine époque, tous les scientifiques, ce que nous on appelle les scientifiques, c'était des philosophes. Il n'y avait pas de distinction aussi marquée entre la philosophie et les sciences.
Et donc, c'était peut-être même d'ailleurs encore plus complexe que ça, puisque c'était des scientifiques et des philosophes, et un certain nombre d'entre eux avaient une proximité avec la religion, et les connaissances permettent de se rapprocher de la compréhension de l'existence de Dieu. Donc c'est même une vision encore plus complexe, et j'ai pas mis les arts dedans, mais parfois on peut le rajouter, c'est encore plus complexe et encore plus englobante que... C'est pas juste philosophe et scientifique, tel que le philosophe qu'on le voit maintenant et scientifique qu'on voit maintenant, je veux dire, c'est encore plus, encore plus complexe, quoi. Mais alors, on commence à où, à peu près? On commence à Galilée, du coup?
Oui, bah, disons que moi, je pense que si on veut introduire la religion dans la... Si on veut faire une toute petite histoire, on peut commencer, on peut remonter peut-être à l'Antiquité grecque et puis distinguer entre la pensée religieuse et la pensée rationnelle, d'abord. Et ensuite, dans un deuxième temps, examiner comme une deuxième étape la séparation entre la pensée rationnelle philosophique et la pensée rationnelle scientifique.
Oui.
Donc là, une première étape, en quelque sorte, c'est donc durant l'Antiquité, c'est... si on pense par exemple au fait d'expliquer un tremblement de terre, par exemple Thalès, il y a cet exemple avec Thalès qui, au lieu de considérer qu'un tremblement de terre est causé par une saute d'humeur d'un dieu, il va formuler l'idée selon laquelle c'est parce que la terre flotte sur l'eau et qu'il y a des remous dans l'eau et donc le tremblement de terre s'explique comme ça. Donc là on peut avoir une tentative d'explication rationnelle qui s'émancipe d'une référence à des dieux. Donc là, on bascule d'une pensée qui était religieuse à une pensée qui est rationnelle.
Par exemple, j'ai plus la date précise en tête, mais quand Thalès prédit une éclipse, c'est un événement, et notamment pour les sciences, qui est phénoménal, puisque c'est un phénomène naturel qui est observable mais inexplicable et qu'on associe à des comportements divins au même titre que les éclairs et du coup les tremblements de terre, tu l'as dit.
Tout à fait.
Enfin, c'est un choc, quoi. On prédit une éclipse avec les maths. Enfin, ça devait être quelque chose de fou.
D'incroyable, oui. Ça, c'est sûr. Et donc ça, c'est la première étape. Après, si on va plus récemment et qu'on veut... comprendre le lien entre science et philosophie, en mettant de côté une pensée plus religieuse qui n'est pas ancrée dans une démarche d'explication rationnelle. Moi, ma manière de voir les choses, c'est qu'en fait, la philosophie, c'est ce qui est le plus fondamental. C'est le champ disciplinaire le plus fondamental, parce que c'est le plus général, en fait. On peut s'intéresser à n'importe quel sujet en philosophie. Et je trouve que peut-être une manière de le voir, c'est de penser à la philosophie comme le domaine du brainstorming de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va considérer toutes les idées possibles et imaginables. Et dès lors qu'un ensemble de ces idées vont mener à des résultats intéressants, préliminaires, qui vont permettre de lancer des enquêtes plus systématiques, qui vont permettre d'établir une méthodologie pour répondre de manière efficace et systématique à des questions, eh bien ça va créer une science, en fait, finalement, qui va venir se détacher, s'autonomiser de cette, de ce lieu du brainstorming. Donc en ce sens, c'est un peu ridicule de dire que la philosophie est morte, puisque le brainstorming continue. Et qui sait si dans quelques années, on n'aura pas des nouveaux champs de recherche qui vont apparaître grâce à l'existence de la réflexion philosophique. La physique s'est émancipée, après il y a des théories plus jeunes, pardon, des sciences plus jeunes comme la psychologie ou la sociologie qui sont apparues plus tardivement.
Qui elles-mêmes elles s'émancipent aussi de la philosophie, c'est plus récent, c'est du 19e siècle, mais c'est pareil, voilà. Ce sont des sciences qui s'émancipent de la philosophie.
Puis on peut penser à l'informatique aussi, qui vient de la logique formelle. La logique formelle, c'est en gros l'idée d'appliquer les méthodes mathématiques au langage. Bon, bah, ce genre de projet un peu étrange, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Et typiquement, ça va être créé par des gens qu'on peut appeler des philosophes, qui réfléchissent à des sujets, qui réfléchissent à des questions auxquelles on ne sait pas comment répondre. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette définition de la philosophie, qui est extrêmement vaste et qui permet d'inclure beaucoup de traditions différentes, que ce soit par exemple la philosophie continentale, la philosophie analytique. Et cette définition, elle est la suivante. C'est une définition épistémique relativement à la connaissance, et c'est donc la suivante. La philosophie, c'est le champ de recherche qui étudie toutes les questions auxquelles on ne sait pas comment répondre, de manière systématique. Voilà. Et dès lors qu'on arrive à répondre de manière systématique à un ensemble de ces questions, eh bien, ce n'est plus de la philosophie, ça devient une science. Et donc c'est un peu ça le drame, en quelque sorte, de la philosophie, si j'ai raison, c'est que tous les succès qui vont être les succès de ces nouvelles sciences vont être attribués à ces sciences elles-mêmes, et pas à la philosophie, qui était pourtant la condition de possibilité de l'émergence de ces sciences. Donc c'est pour ça, pour moi, il ne faut pas... En fait, c'est une illusion, tu as parlé de spécialisme au début, c'est une illusion liée à la spécialisation du savoir, de croire que ce sont des choses complètement distinctes. Si on regarde un peu comment se construit la connaissance humaine, c'est important de ne pas conserver ce type de vue sans laquelle la philosophie serait quelque chose de désuet parce qu'elle ne produit pas de résultats. Il faut bien penser que les domaines du savoir qui produisent des résultats sont liés à la philosophie. Et puis chaque science a toujours des problèmes méthodologiques, des problèmes de fondement conceptuel. Et les gens qui travaillent dans ces problèmes de fondement, bah, ça va être des chercheurs du domaine, mais aussi des philosophes.
Oui, là tu fais référence à l'épistémologie et aux différents courants méthodologiques qui peuvent exister en science. Peut-être simplement pour rappeler aux éditeurs qu'il n'y a pas une manière de faire la science. Il existe plusieurs façons de faire qui sont évidemment relatives aux disciplines, mais au sein d'une même discipline, on peut avoir plusieurs méthodologies qui sont même parfois concurrentes, parfois même violemment concurrentes. Ou parfois, surtout en sciences humaines, où ça, évidemment ça pose toutes sortes de questions, mais on le verra tout à l'heure aussi en physique. Enfin voilà, quoi. Donc il y a plusieurs manières de faire la science, et donc plusieurs manières de s'interroger sur le rapport à la science en train de se faire, et ça c'est un échelon philosophique.
Tout à fait, et je pense qu'on peut ajouter aussi que il y a plusieurs... on va dire théories ou programmes de recherche en compétition, mais il peut y avoir aussi des problèmes qui persistent. C'est-à-dire, on va peut-être parler plus tard de la mécanique quantique, mais sans parler du tout du sujet qui est très difficile, une simple observation méthodologique, c'est que tous les physiciens ne sont pas d'accord sur la nature même des fondements théoriques de la physique quantique. Donc il peut y avoir des gros problèmes qui sont à strictement parler à la fois scientifiques et philosophiques, qui persiste dans les fondements d'une science particulière. Parce que cette science peut parfois avancer, comme c'est le cas en physique quantique, on peut calculer, on peut faire des prédictions, on peut construire des téléphones portables, etc. On peut faire beaucoup de choses avec la physique quantique, malgré un problème persistant qui est qu'on ne comprend pas bien comment est le monde si cette théorie est vraie. Donc les fondements d'une science peuvent inclure des, comment dire, des trous d'explication il y a donc des philosophes et des scientifiques qui travaillent et essaient de résorber ces trous de les dans notre
Oui,
compréhension du monde.
mais là on continue à tirer le fil de réflexions qui sont très très conceptuelles. Qu'est-ce que ça veut dire le monde dans le scénario d'un multivers où il y aurait 10 puissance 100 scénarios, enfin univers, pardon, en parallèle, ou dans d'autres représentations des théories de la physique quantique, dans la gravité quantique, etc. Enfin, ça donne des représentations en fait du monde réel qui sont bouleversées. Mais sans aller jusque-là, on peut peut-être déjà se dire, et pour en finir avec notre Stephen Hawking qu'on était en train de démonter gentiment, que la philosophie, elle est capable d'avoir des réflexions qui sont des réflexions pratiques. Tu le disais un tout petit peu, et on a passé un petit peu vite là-dessus. Donc par exemple, la science permet l'intelligence artificielle, entre autres exemples, elle permet les ordinateurs et l'IA. Quid de mon libre arbitre dans l'intelligence artificielle? C'est une question que seule la philosophie peut répondre. Des notions de bien ou de mal, des notions de beau, notions de temps, par exemple, au hasard, comme dans une émission qu'on a déjà faite à la rentrée dernière. Sur Cause commune, donc du coup, tiens, tant que la perche est lancée, je finis. Sur qu'on peut retrouver évidemment en podcast sur le site causecommune.fm.
Came in this game like a motherfucking rat. Like I was timing for things I never thought I could have. I give you all I got, now you talk behind my back. I ain't a time philanthropist anymore. What? You came to me like a little child. I brought you up, fed you, and gave you all of my time. I taught you all I learned, lended you what I earned. Without me now you ain't even a piece of shit, you turd. Huh. Yesterday we were brothers, oh no, we enemies. Understand I'm no shit about how to start the game. Not the same level, struggle, sacrifices, pain. Hey yo, ain't no questioning about who is the best. You better not test, I am Gatsby, you're the guest. Yes.
Wanna snatch my dreams, I'ma be your worst nightmare.
If you do, you don't distinguish what I'm saying. Many meanings in my text, but I swear this shit no fiction. I wrote these lines cause it relived a big part of my pain. It would never be the same, nigga, I was still by yelling.
Yesterday we were brothers, oh no, we enemies. Understand I'm no longer, not make my time ain't free. Yesterday we were brothers, oh no, we enemies. Understand fuck your ego. And I'm no longer number and my time ain't free. Yesterday we were brothers, oh no, we enemies. Understand, fuck your ego. Yeah, you've been too greedy.
Il y a quand même des applications pratiques à la philosophie.
Alors oui, c'est tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment trois dimensions trois utilités principales pour la philosophie en relation avec les sciences, donc que tu viens de citer, donc je les rappelle. La première, c'est la dimension épistémologique, donc qui est le jargon pour parler de la connaissance, donc la manière de produire des connaissances, d'être justifié à tenir une croyance pour vraie. Donc l'épistémologie est importante, donc là ça va être typiquement des problèmes de méthode, comment être sûr que qu'une pratique scientifique produit des connaissances de manière correcte. Alors bien sûr on peut dire que c'est un problème plutôt pour les scientifiques et pas pour les philosophes, mais les philosophes dans tous les cas peuvent être utiles pour au moins clarifier des contextes litigieux. Par exemple, tu as parlé de multivers tout à l'heure. Bon, il y a des gros débats parmi les physiciens pour savoir est-ce que la théorie du multivers, l'idée qu'il y aurait des réalités parallèles, est-ce que c'est une théorie qui est scientifique ou est-ce que c'est une théorie qui n'est pas scientifique. Pour trancher ce genre de problème, il faut avoir un critère de démarcation entre le scientifique et le non scientifique. Donc ça, c'est typiquement des questions épistémologiques. Deuxième type de questions que tu as mentionné, c'est les questions ontologiques. Donc deuxième mot un peu technique, désolé pour les auditeurs, mais c'est la branche de la philosophie qui s'intéresse au monde tel qu'il est, la réalité. Comment est le monde si telle théorie est vraie? Et là, évidemment, ça fait partie du travail du scientifique de nous dire comment est le monde, mais parfois, il ne peut pas vraiment aller dans le détail, puisque lui, ce qu'il veut faire, c'est produire des résultats, c'est avoir des manières, d'avoir des manières d'opérer qui fonctionnent, qui vont permet de construire des technologies, etc. etc. Donc certains scientifiques peuvent être sensibles à l'ontologie, d'autres ne pas l'être. Donc ça, c'est un deuxième endroit où le philosophe peut venir participer à la discussion avec le physicien. Et la troisième que tu as mentionnée, ce sont les conséquences, pourrait dire, normatives de certaines pratiques scientifiques, de certaines découvertes scientifiques. Donc les normes, ce sont en gros le nom, ce sont des règles, c'est tout ce qui n'est pas réductible à ce qui est. Donc on parle plutôt du devoir-être, des normes. Par exemple, on peut avoir des normes morales, normes esthétiques, des normes politiques. Et donc on peut se demander, si on, par exemple, on arrive à produire une arme nucléaire, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, quelles sont les règles qu'on impose à leur utilisation. Si on produit des vaccins, est-ce qu'on peut les injecter, et si oui, dans quelles circonstances, etc., etc. Donc en fait, l'éthique qui est une partie de la philosophie, est aussi extrêmement importante en philosophie des sciences. Alors moi, c'est pas du tout mon domaine de spécialité, l'éthique, mais c'est important de rappeler que c'est un des domaines principaux de la philosophie des sciences, de la philosophie et de la philosophie des sciences quand elle porte sur des problématiques liées à la science. Et là, évidemment, il n'y a pas de raison, pour revenir à Hawking, qui dit que la philosophie n'a aucune utilité, il n'y a aucune raison de supposer qu'un physicien est plus compétent que quelqu'un d'autre pour s'occuper de problématiques éthiques. C'est pas parce qu'un physicien est brillant et qu'il a pu développer, par exemple, la bombe atomique, qu'il est plus compétent pour savoir dans quel contexte l'utiliser ou non. Il semble que les compétences nécessaires en éthique soient des compétences dont le philosophe est spécialiste et dont le scientifique n'est pas forcément spécialiste. Voilà en gros les trois grands types de contributions, qu'un philosophe peut faire à la science. Épistémologique avec la méthode, ontologique avec aider à comprendre les fondements théoriques, la manière dont est le monde si la théorie est vraie, et la discussion des conséquences pratiques de certaines théories scientifiques.
On a lâché beaucoup de mots de vocabulaire. Il y en a un sur lequel on n'a pas été dans le détail, c'est le positivisme. On a tout de suite dit, c'est une approche positiviste de Stephen Hawking, sans préciser exactement ce qu'on voulait dire. Alors, l'idée, c'est que les scientifiques ne sont pas d'accord tous dans leur manière et de voir le monde et de faire la science en vue des résultats attendus. Donc, qu'est-ce que serait une approche scientifique différente de celle de Stephen Hawking?
Après, ça dépend ce qu'on entend par positivisme aussi, puisque c'est un mot qui est un peu qui peut vouloir dire plusieurs choses. En un certain sens, qui est peut-être important d'avoir à l'esprit, le positivisme décrit le rejet de la pensée métaphysique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on est positiviste dès lors qu'on s'interdit d'entrer dans les discussions ontologiques, métaphysiques, dont j'ai parlé avant. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse quand on est positiviste, c'est de produire des résultats qui sont directement en lien avec ce qu'on peut manipuler, ce qu'on peut tester, et ce qu'on peut observer. Voilà. Par exemple, une école très... très connu en philosophie des sciences de positivisme, c'est ce qu'on appelle le positivisme du cercle de Vienne, qui est un groupe de philosophes du début du XXe siècle, qui était constitué en fait de philosophes, mais aussi de scientifiques. Donc ils ont construit une sorte de philosophie liée à l'idée selon laquelle tout ce qui a du sens est lié à ce qu'on peut observer. Donc ils sont allés très très loin en défendant par exemple que tout énoncé qui n'a pas de conditions, qui n'est pas ou bien un énoncé d'observation, ou bien un énoncé théorique, mais qu'on peut connecter à des observations, tout énoncé qui n'est pas directement en lien avec des observations n'a aucun sens. Donc ils ont défendu une théorie de la signification extrêmement radicale, qui n'est plus du tout accepté. Mais c'est pour donner un exemple un peu de ce que peut être le positivisme lorsqu'il est théorisé un peu de manière philosophique. Donc ça peut être vraiment l'idée selon laquelle ce qui a du sens, c'est uniquement ce qui est observable, en gros. Alors je simplifie un petit peu. Mm-hmm. Et donc le positivisme, je trouve que ça exemplifie assez bien ce qu'on appelle le positivisme, qui est l'idée de dire ce qui importe, c'est uniquement ce qui est en lien avec l'expérience. Après, si vous commencez à dire comment est le monde, pourquoi est-ce que le spin des électrons, est-ce que ces choses existent ou non, bien, si vous êtes positif, vous allez dire ces questions n'ont aucun sens puisque elles ne sont pas directement, on peut pas les lier directement à des observations. Ou alors vous allez dire le spin existe mais uniquement au sens où vous pouvez le lier à des observations particulières. Donc on peut opposer le positivisme à des gens qui sont plus réalistes, comme beaucoup de philosophes contemporains. Alors on peut être réaliste à propos de plusieurs choses, mais on peut être réaliste à propos des choses qu'on ne voit pas, alors, des choses inobservables.
Réaliste, si je le dis au sens du quotidien, c'est bon, je suis réaliste, je suis pragmatique. Là, on ne parle pas exactement dans le sens, oui. Je suis réaliste, je suis... Tu vois ce que je veux dire ? Il faut savoir être réaliste, alors que là, c'est
en fait,
plutôt...
c'est le contraire.
Ouais, c'est réaliste dans le sens où je m'intéresse au réel.
Voilà, un réaliste, ça veut dire le monde existe indépendamment de vous, et ce monde possède une structure qui est des articulations de la réalité, qui ne dépendent pas de la manière que vous avez de le concevoir, d'y penser. Donc finalement, on peut s'affranchir de nos représentations pour essayer de comprendre comment est le monde derrière notre système de représentation de la réalité. Alors le positivisme va vous dire il n'y a que cette grille de représentation et finalement il n'y a rien d'intéressant derrière, ou alors ce n'est que pure spéculation d'aller voir ce qu'il y a derrière notre grille de représentation de la réalité. Alors évidemment, si vous êtes un scientifique plutôt positiviste, la philosophie vous intéresse, ou en tout cas l'ontologie, la métaphysique vous intéresse moins, puisque de toute façon, vous pensez qu'il n'y a rien d'intéressant à faire. Par contre, si vous êtes un scientifique dont le but c'est de craquer la réalité, c'est de comprendre comment est le monde, dans ce cas-là, vous allez faire de la philosophie. Et là, on va avoir un endroit où la métaphysique et les sciences vont se recouper.
Ouais. Donc en gros, le positiviste, il dit « je crois ce que je vois, je ne crois que ce que je vois ». Je fais des raccourcis un peu brutaux, mais on pourrait se dire ça comme ça. Et le réaliste, il dit « je crois ce que je vois, plus quelque chose en plus ». Que je vais aller chercher, que je vais aller et que je vais aller extrapoler. Le réel est au-delà de ce que je vois, et pour comprendre le réel, j'ai besoin de travailler plus, quoi, travailler plus large.
Tout à fait.
Et donc là, ça, du coup, ce sont des courants qui s'opposent et qui sont assez critiques les uns envers les autres, parce que c'est on est sur quelque chose de très très à la racine en fait de la réflexion scientifique et de la construction de la science. C'est-à-dire comment des scientifiques peuvent s'entendre quand ils ont des visions comme ça entre positivisme et réalisme aussi différentes.
Ouais. Alors je pense que alors bien sûr là on a un petit peu rendu les choses plus d'une part plus radicales qu'elles ne le sont réellement, au sens où beaucoup de philosophes et de scientifiques ont une position un peu plus nuancée au milieu entre ces deux approches. Et puis la deuxième chose à dire, c'est que en fonction du domaine scientifique qu'on examine, on va pas retrouver le même tempérament. Par exemple, dans certains domaines de la physique, comme en physique quantique, on retrouve énormément de gens qu'on appelle des instrumentalistes. Donc les instrumentalistes, c'est une sorte de forme de positivisme, qui est l'idée selon laquelle les théories scientifiques sont des instruments pour faire des prédictions, et ce ne sont pas des représentations de la réalité. Voilà. Donc là, c'est un exemple, encore à nouveau, de positivisme, puisque les théories scientifiques ne représentent pas la réalité, mais ce sont simplement des outils prédictifs. Donc ces théories ne nous permettent pas d'accéder à la structure fondamentale de la réalité. Et l'instrumentalisme est très répandu, par exemple, chez les physiciens qui travaillent sur la physique quantique en France. Par contre, si vous regardez les physiciens qui travaillent dans d'autres domaines, par exemple en astrophysique, ou sur la relativité générale, ou sur les fondements de la gravité quantique, il me semble que ces physiciens-là sont beaucoup plus naturellement des réalistes, puisque eux, ils sont dans une démarche qui est de comprendre le monde tel qu'il est, de trouver de nouveaux principes pour mieux comprendre, pour faire des progrès scientifiques. Donc, en fait, dans certains domaines, ce qu'il faut, c'est être très très fort en mathématiques, appliquer les mathématiques, faire des calculs. Et dans d'autres domaines, on a besoin de prendre du recul et d'essayer de comprendre pourquoi certains outils mathématiques marchent, pourquoi certaines choses ne marchent pas, pour essayer de produire de nouvelles théories. Donc là, ce sur quoi je veux insister, c'est que finalement, le rapport même du scientifique, et ici en l'occurrence du physicien à la philosophie, va dépendre du type de science, voire du type de physique que pratique le scientifique. Donc différents scientifiques vont avoir différents rapports à la philosophie, parce que certains scientifiques ont un rapport naturel avec la philosophie, ils en ont besoin, ils font de la philosophie en un certain sens dans leur métier, alors que d'autres, au contraire, ont une tendance à se maintenir à distance de la philosophie, parce que la philosophie qui s'occupe du langage n'est pas intéressante pour eux. Eux, ils sont beaucoup plus à l'aise avec les mathématiques, ils ont uniquement besoin des outils mathématiques, et ils n'ont pas besoin du langage ordinaire. On pourrait dire un scientifique qui a besoin du langage et un scientifique qui a plutôt besoin des mathématiques vont avoir un rapport différent à la philosophie.
Donc on en revient à une approche par l'outil, quelque part. Tout instrumentalise, si on va par là.
Bah, alors, oui, peut-être... disons que dans ce que je dis, je pense quand même que le langage naturel est important. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir des situations dans lesquelles les physiciens ont des résultats, mais uniquement en termes mathématiques. Par exemple, on peut penser à la théorie des cordes, où il y a beaucoup de résultats de dérivation de certains formalismes à partir d'autres formalismes, ou des tests d'équivalence entre différents formalismes. Donc on a ce genre de résultats mathématiques, mais on n'a pas de description associée dans le langage naturel. Donc on ne comprend pas vraiment à quoi ça correspond, comment est le monde, comment devrait le monde pour que ces mathématiques soient pertinentes. Et donc ce que cela semble montrer, c'est quand même que même si les mathématiques sont le langage naturel du scientifique, on a besoin aussi, pour comprendre le monde, d'avoir une description dans le langage. Alors moi, je me suis peut-être mal exprimé en disant que le langage était aussi un outil. Mais pour moi, je pense que c'est plus que ça. Je pense vraiment
c'est moi
que...
qui caricature un petit peu pour...
Ça me permet de clarifier un petit peu.
Pour pousser la réflexion. Et puis parce qu'effectivement, il y a sans doute un besoin de garde-fou à avoir. J'avais trouvé une citation de Robert Musil, doublement d'ailleurs, chez Étienne Klein et chez Jacques Bouvresse, qui dit « C'est pas parce qu'il existe un point commun entre les tables, les chaises, les chiens et les équations du quatrième degré que c'est une métaphore géniale d'appeler toutes ces choses des quadrupèdes. » Il y a un moment donné, il faut faire des choix, et des choix au regard d'un objectif. C'est ça en fait que tu dis, l'approche par l'outil, elle est évidemment un peu caricaturale, mais on a une réponse à donner à une question qu'on se pose, et donc on le fait systématiquement par rapport à un cadre. Et après, dans ce cadre-là, on peut mettre de la philo ou des sciences, faut pas être trop carré sur notre cadre, si j'ose dire, mais en tout cas, ça reste un cadre de toute manière.
Disons que le cadre peut être un cadre... Il y a plusieurs manières de penser à un même objet d'étude. On peut par exemple le décrire avec des relations mathématiques. Par exemple, on peut penser à la physique newtonienne. Ça a été introduit par Newton comme une manière de décrire le mouvement des corps. C'est une description mathématique qui introduit un concept de force à distance. La force de gravitation, par exemple, elle est à distance. Mais il semble qu'on ait quand même besoin de plus que ça. Newton lui-même trouvait que c'était quand même un peu étrange qu'on ait cette force primitive à distance. Mais on peut se satisfaire temporairement d'une description mathématique, même si on n'a pas de description plus ontologique, d'explication plus profonde de ce qui se passe, hein, pour utiliser le mot qu'utiliser, tant qu'on n'a pas un cadre plus performant pour décrire les choses. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à mon sens, un cadre purement mathématique ne suffit pas pour comprendre le monde, que ce soit pour un philosophe ou un scientifique d'ailleurs. C'est que pour faire du progrès en science, ça suffit pas d'avoir une description mathématique, ou ça peut suffire localement, puisqu'on peut dire Newton a fait un énorme pas en avant en proposant son approche. Mais dans l'idéal, on veut aussi une description du monde tel qu'il est. On veut pas simplement décrire de manière purement mathématique les systèmes que l'on décrit. C'est ça que je voulais dire. Et
on en revient à la citation d'Einstein au début, que je rappelais au tout début. Le physicien n'est rien d'autre qu'un philosophe qui s'intéresse à certaines choses particulières. Pour lui, c'est un philosophe spécialisé, donc. Sinon, ce n'est qu'une sorte de technicien. Et Einstein, c'est typiquement le... Alors, c'est un scientifique réaliste, ça c'est clair et net. Et c'est justement celui... qui a bon, désingué Newton, on peut dire ça comme ça, qui a prolongé la notion de référentiel chez Galilée, mais qui était mal à l'aise avec la variable t, donc l'approche mathématique de Newton, qui s'est contenté en fait pour définir le temps d'une variable t. Donc là, voilà, comme tu parlais d'approche mathématique.
Bah, peut-être une chose à ajouter, c'est que je pense que Einstein, par exemple, il considérait que beaucoup de scientifiques ne sont que des techniciens par rapport à la définition que tu viens de donner, puisque du fait de la spécialisation du savoir, certains scientifiques doivent finalement être des techniciens, d'être ultra spécialistes dans certains domaines. Et ils ne peuvent pas se payer le luxe, finalement, d'explorer les fondements théoriques de leur discipline ou l'histoire du développement de leur discipline. Parce que voilà, ils ont déjà énormément de compétences à maîtriser. Et donc, ils ne sont simplement pas experts des fondements méthodologiques et de l'histoire et de la philosophie de leur discipline. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Et la seconde chose que je veux dire aussi, c'est que, en tout cas, dans les sciences mathématiques, comme la physique... une grande partie des physiciens sont aussi de très bons mathématiciens. Puis on a même un champ qui s'appelle la physique mathématique, qui est un champ dans lequel les pratiquants de ce domaine sont à la fois des physiciens et des mathématiciens. Et donc les mathématiques sont extrêmement importantes. Et donc les gens qui travaillent dans ces domaines sont des spécialistes des mathématiques. Ils ont un niveau de compétence extrêmement élevé en mathématiques. On peut dire que ce sont des experts des mathématiques. Maintenant, les philosophes, eux, ils ont un domaine d'expertise qui n'est pas le même. Ils sont rarement de très bons mathématiciens, puisque ce n'est pas leur fonds de commerce, entre guillemets. Mais ce sont des experts du langage ordinaire. Ce que j'essaye de faire sentir depuis tout à l'heure, c'est que les philosophes peuvent être des alliés précieux aux scientifiques par leur expertise du langage. Parce que dans les situations dans lesquelles les scientifiques ont uniquement accès à des descriptions mathématiques, mais n'ont pas vraiment réussi à construire des descriptions linguistiques, et ben on est dans une situation où c'est difficile de faire des progrès. Là, je pense à toute une partie de la physique contemporaine, où on a des résultats mathématiques préliminaires qu'on n'arrive pas à interpréter. On ne sait pas vraiment comment est le monde pour que ces résultats aient du sens. Par exemple, comme tu l'as dit, je travaille sur la nature de l'espace et du temps. Bon, théories physiques, certaines théories, c'est peut-être un peu fort, mais donc certaines approches en physique théorique contemporaine suggèrent que l'espace et le temps n'existent pas fondamentalement. Et ça, les physiciens le voient d'abord sur des résultats préliminaires mathématiques. Mais comprendre ce que ça peut vouloir dire vraiment réellement, que l'espace et le temps n'existent pas ou ne sont pas fondamentaux, c'est difficile de penser que ça pourrait être uniquement les mathématiques qui vont nous aider ici. Il semble qu'on ait besoin de faire du développement de concepts, d'utiliser peut-être l'histoire des idées, des arguments philosophiques, des thèses philosophiques qui ont été construites au cours de l'histoire par les philosophes, pour comprendre ce que ça peut vouloir dire finalement, que l'espace et le temps ne sont pas fondamentaux. Mmh. Donc voilà, c'est pour montrer que peut-être on peut voir une expertise complémentaire entre les scientifiques qui sont des experts en mathématiques, et un petit peu au niveau conceptuel aussi, bien sûr, mais les philosophes ont, à mon sens, un niveau plus élevé d'expertise dans la production et l'application de concepts très précis, qui, comme je l'ai dit, peuvent aider pour la métaphysique, pour l'épistémologie, oui. Et pour l'éthique.
Mais dans la limite du langage, du coup, si le philosophe doit développer et mettre en mots et exprimer des représentations qui sont purement mathématiques, c'est-à-dire que, par exemple, sur le temps, j'imagine que tu es bloqué par les racines latines de notre langage qui sont construites avec des temps découpés passé, présent, futur. Dans d'autres langages, le futur n'existe pas ou n'existe pas vraiment. On utilise énormément de participes présents. Les choses sont faisantes, en train de se faire. Et du coup, on construit les phrases de manière différente. Et je suppose que, je dis ça exprès pour prendre le pan inverse, que les mathématiques challengent le philosophe pour le forcer, en quelque sorte, à amener ses réflexions vers des terrains auxquels il ne s'attendait pas, parce que les résultats mathématiques, les équations, donnent des choses inattendues qui peuvent d'abord peut-être apparaître comme une erreur et finalement sont en fait une représentation brutalement différente de la réalité qu'on a pour l'exprimer.
Oui, c'est juste un point très intéressant. Si on pense par exemple à l'invention de l'espace-temps de Minkowski au début du XXe siècle, qui a permis d'avoir la formulation géométrique de la relativité restreinte. Derrière ce développement, il y a l'idée que le temps a un comportement assez similaire à celui de l'espace, de manière très abstraite. Donc, l'idée, c'est ici, en fait, d'accepter une spatialisation modérée du temps. On ne dit pas que le temps est complètement identique à l'espace, mais le temps ressemble énormément à l'espace. Et ici, on peut y voir peut-être une situation dans laquelle on a eu d'abord une description mathématique. On décrit l'espace et le temps comme étant deux aspects de quelque chose de plus fondamental qui est l'espace-temps. Mais peut-être pour le décrire de manière comme je le fais, déjà en disant que l'espace et le temps sont des aspects qui émergent d'un espace-temps plus fondamental, peut-être qu'il fallait une description mathématique basée sur la physique pour ensuite amener les philosophes à réfléchir sur ce que c'est que de vivre dans un espace-temps. Comme tu le sais, moi je prends ça très au sérieux, je pense qu'à une échelle de description, effectivement on vit dans un espace-temps unifié, et donc ça crée des questions philosophiques sur la nature du temps, sur la nature de l'espace, sur le lien entre les deux. Et on peut arriver à défendre des thèses comme la théorie de l'univers bloc, et de dire qu'on vit dans un espace-temps à quatre dimensions. Et finalement, cette thèse philosophique, que là je viens d'articuler dans le langage courant, avec des mots du langage courant, s'appuie sur des équations mathématiques, sur les équations de Minkowski, sur les transformations de Lorentz, qui montrent comment on change de coordonnées quand on décrit un système physique entre deux points de référence. Donc finalement, on arrive à construire des thèses philosophiques dans le langage courant en partant de résultats mathématiques. Mais là, peut-être, ce qui me dérange un peu dans la manière dont je viens d'écrire les choses, c'est que ça suggère une relation d'ordre qui va que dans un sens. On aurait dit les mathématiques viennent d'abord et puis ensuite on construit quelque chose en langage courant, une vision du monde. En fait, je pense que c'est pas vrai et que les physiciens, les scientifiques en général, ont toujours une vision du monde, un paradigme au sens de Kuhn dans lequel ils évoluent. Ils ont une manière de voir le monde de manière très abstraite, une manière de voir le monde scientifique. On pouvait avoir le paradigme de la relativité, le paradigme de Newton, le paradigme de la chimie moderne, et ainsi de suite. Et donc, je pense que c'est plus des allers-retours constants entre des outils plus formels et cette vision du monde d'arrière-plan. Et donc, il y a des allers-retours entre les deux manières de faire. Mais là, ce sur quoi je voulais insister tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir, à l'heure actuelle, des contextes dans lesquels on est un peu bloqué au niveau de la vision du monde. Dans les recherches en gravité quantique, par exemple, c'est un peu le cas. Là, on a des sortes d'avances très intéressantes au niveau mathématique. On a des sortes de constructions, de morceaux, de fragments de théorie. Mais on n'a pas encore cette manière globale de comprendre comment est le monde. Et c'est là peut-être que les philosophes peuvent être utiles. Par exemple, pour citer un physicien très connu en France, Carlo Rovelli.
Qui est souvent, italien, pour le coup.
Tout à fait.
Mais qui est connu en France, ouais.
Mais qui est basé en France aussi, à Marseille. Carlo Rovelli, lui, c'est un des physiciens qui insiste le plus sur le besoin des philosophes. C'est un peu l'anti-Hawking, il veut toujours dire. Parce que lui, c'est un des principaux défenseurs d'une approche particulière de la gravité quantique, qui s'appelle la gravité quantique à boucle. Et donc, il est extrêmement sensible aux limitations qu'on a un peu dans notre compréhension du monde pour comprendre la nature de l'espace, du temps. Et il voit bien que les philosophes ont une expertise dans ce domaine qui peut être utile pour venir nourrir la pratique des physiciens et les aider finalement à se débloquer conceptuellement et explorer de nouvelles pistes de recherche pour construire la physique du futur.
J'ai envie de rajouter un degré de complexité, il nous reste très peu de temps pour finir, mais quand même, c'est tentant. Là, en fait, on a fait une séparation avec le côté formel d'un côté et le côté informel de l'autre, le langage mathématique, comme si les mathématiques, c'était une mécanique froide, en dehors de l'individu, du chercheur qui travaille et de l'humain en règle générale. Une approche, cette fois-ci, une approche des sciences qu'on n'a pas abordée, puisqu'il y a plutôt des sciences humaines, une approche constructiviste, donc par opposition au positivisme, je crois que ce que je vois, là on pourrait dire je ne vois que ce que je crois. Le constructiviste, il construit le monde autour de lui, et en fait un scientifique des sciences... Alors tu m'arrêtes si jamais tu veux le dire mieux que moi, mais un scientifique des sciences humaines, en fait, il raconte pas ses observations, il se raconte lui en train de faire ses observations, parce qu'un psychologue qui arrive dans une entreprise pour faire... une observation sur la conduite du management, il sait très bien que dans son échantillon, sur son terrain, il va être les gens vont se sentir observés et sa simple présence va modifier les choses. De la même manière, une approche constructiviste un petit peu brutale chez Jean Piaget en l'occurrence considère qu'en fait les mathématiques c'est des sciences humaines parce que ça part de l'humain et en fait c'est une construction de la représentation du monde autre que le langage, avec une, ou en tout cas sous une autre forme de langage, et qu'il n'y a pas de réalité propre, c'est-à-dire qu'un chiffre, ça n'existe pas dans le monde réel, c'est utilisé pour compter, mais ça n'a pas de base propre. Donc du coup, si on fait cette séparation entre un formalisme mathématique d'un côté et le langage qui permet de développer, alors que les mathématiques même, en fait, sont une construction humaine... Comment ce dualisme peut encore exister ?
Je pense qu'il y a plusieurs questions peut-être qu'on peut distinguer ici. Une première question, c'est la nature des entités mathématiques. Est-ce que les nombres, les fonctions, les spinors, les espaces vectoriels, les structures algébriques, que sais-je, est-ce que ces choses existent ? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elles existent indépendamment de nous ou pas? Donc là, il y a un débat en philosophie des mathématiques sur la métaphysique des entités mathématiques, qui est de savoir est-ce que ces choses existent indépendamment de nous. C'est-à-dire, vous imaginez que dans l'univers, il n'existe plus un seul être humain, aucun alien, aucun extraterrestre, aucun agent conscient. Est-ce qu'il existe encore des entités mathématiques? Voilà. Est-ce que les entités mathématiques existent indépendamment de nous? Donc, en référence à Platon, on appelle cette position le platonisme. D'accord, c'est la thèse qui dit selon laquelle toutes ces entités existent. Et à l'opposé, on a le nominalisme. Donc le nominalisme, c'est une stratégie en philosophie qui consiste à nominaliser, donc à rendre donc, du mot « non », à éliminer une chose en disant que c'est simplement du langage. Donc, par exemple, si on nominalise les mathématiques, on dit que les mathématiques, ce sont que des mots qui ne recoupent pas une réalité au-delà de ça. Donc ça, c'est un premier débat qu'on peut avoir, qui est celui de l'existence même de ces entités. Après, le constructivisme, lui, ça pose une deuxième question, peut-être, qui est le rapport entre nous et ces entités. Savoir, est-ce qu'on les fait advenir à l'existence? On peut parler peut-être de une sorte de conventionnalisme, on les fait advenir à l'existence par convention, ou pas. Moi, je trouve que ce genre de position conventionnaliste est assez étrange. Il me semble que, ou bien les entités mathématiques existent indépendamment de nous, ou bien qu'elles n'existent pas du tout. L'idée selon laquelle elles existeraient, mais en dépendant de nous par construction, ça me paraît un peu plus étrange. Alors après, tu vas me dire peut-être que c'est pas ça que tu avais en tête avec le constructivisme, mais le mot constructivisme me semble assez compliqué à comprendre parfois, parce qu'il peut recouper plusieurs réalités. C'est pour ça que j'ai essayé de distinguer entre nominalisme, qui dit que ça n'existe pas, et conventionnalisme, qui dit que ça existe, mais du fait de notre action. Moi, je pense que la réalité, tout n'est pas, on ne peut pas réduire tout aux êtres humains. Je veux dire, quand on ferme les yeux, le monde est toujours là. La Terre continuera de tourner quand il n'y aura plus aucun être humain à sa surface. Je ne vois pas vraiment pourquoi on devrait tout indexer à l'être humain, au moins en physique. Alors après, quand tu me parles de sciences humaines, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, puisque là, on parle de phénomènes dont l'existence même dépend de systèmes sociétaux, d'êtres humains, ou d'êtres au moins intelligents. Donc là, c'est plus compliqué. Comment on va appréhender ce type de phénomène et les décrire scientifiquement. Mais je sais plus, j'ai peut-être perdu ta question.
La question qu'on peut se poser en continuant cette réflexion, c'est celle de l'observateur, c'est-à-dire que la Terre continue de tourner indépendamment de l'humain, mais qu'est-ce que ça veut dire la Terre tourne? C'est une question qu'on se pose nécessairement du point de vue d'un être humain. Donc toute réflexion qu'on porte sur la nature de la réalité se fait à travers des sens que nous avons, soit pour la voir, soit pour spéculer de ce qu'il y a, de ce qu'il y a au-delà de nos sens. Mais dans tous les cas, on en revient à notre propre, comment on pourrait appeler ça ? J'allais dire construction, mais ça fait doublon.
Notre propre limitation.
Mais notre propre limitation, oui. Ouais, voilà. Notre propre limitation. De la même manière qu'en mathématiques, les mathématiques ne font pas l'alpha et l'oméga, c'est ce qu'elle veut dire, de sorte de réflexion. Elle se limite à des axiomes où on permet de se dire, bon, là, on y va tranquillement, on est en géométrie plane, on est sur des axiomes euclidiens, on avance tout doucement, puis après on va avoir d'autres bases axiomatiques pour avancer. Ce sont des choix, en fait, ce sont des choix arbitraires qui ont été faits par les humains pour vérifier la validité de X ou Y calculs.
Tout à fait, donc finalement on doit trouver une manière de jouer avec ses limitations. Tout à fait juste qu'on est limité par les concepts, par les mots qu'on utilise. Si vous êtes dans une langue où vous n'avez pas de distinction entre deux choses, vous allez avoir plus de mal à distinguer ces deux choses. Mais c'est pas parce qu'il y a des limitations que ces limitations sont toutes puissantes, entre guillemets. Je veux dire, par exemple, si je vous dis la Terre est ronde, pouvais me dire oui, mais ce que tu veux dire par là, c'est que tu utilises le concept de rondeur, tu utilises le mot terre, tu connectes ces choses ensemble, donc tu ne dis pas vraiment quelque chose à propos du monde. Mais je pense que si, parce que si je vous dis la terre est plate, là, je pense qu'on peut quand même se mettre d'accord qu'un des deux énoncés a un rapport privilégié au monde, à la réalité. Il ressemble plus à la réalité. Donc si vous acceptez ça, c'est que vous acceptez que les mots ont une prise avec la réalité. Les mots touchent le monde et que la structure des énoncés qu'on utilise, la structure des phrases, la structure des théories, qui sont des ensembles de phrases plus complexes, peuvent refléter de manière plus ou moins pertinente la réalité. Donc peut-être là, ce sur quoi je veux insister, c'est que même si on est limité par le langage qu'on utilise ou les langages qu'on utilise, si on parle différentes langues ou si on considère que les mathématiques sont un langage, ce sont des limites qu'il faut essayer d'intégrer, de comprendre, pour essayer de trouver des manières par exemple, si on n'a pas le bon concept, eh bien d'inventer le concept dont on a besoin. Et je pense vraiment qu'on peut faire du progrès dans l'amélioration des langages qu'on utilise pour atteindre le réel et le décrire correctement. Alors bien sûr, on n'arrive pas à tout faire. On peut toujours être un peu sceptique sur le fait de savoir dans quelle mesure on le fait correctement. Donc on peut toujours avoir une sorte de scepticisme. On n'arrive pas à le faire de manière optimale. Et on ne sait pas toujours à quel point on arrive à le faire de manière correcte ou non. Mais ça n'empêche pas qu'on a de très bonnes raisons de penser qu'avec le langage, on arrive à décrire la réalité de manière... d'une excellente manière, et que les différentes sciences nous offrent des descriptions de plus en plus pertinentes et correctes de la réalité. Mmh.
Si je résume, et j'en reviens au tout début de l'émission, pour conclure, le vrai tort de Stephen Hawking, quand il disait « la philosophie est morte », c'est pas tellement une vision réduite de la philosophie, c'est de penser que il y a une séparation nette entre science et philosophie, alors que l'un et l'autre sont connectés et dialoguent en permanence.
Tout à fait, je pense que c'est une très bonne conclusion. On a une grande spécialisation du savoir qui rend nécessaire le fait d'avoir différentes casquettes. On va avoir un individu qui est plutôt spécialiste de certains problèmes plus de philosophie, je sais pas, de la biologie, d'autres individus qui sont spécialistes de biologie de manière plus empirique. Idéalement, ce serait bien que tout le monde soit un expert de tout, mais ce n'est pas possible. Donc on a des spécialisations et on a que quelques individus qui essaient un peu de reconstruire des ponts entre les différents savoirs fragmentés par la surspécialisation nécessaire de nos jours, en fait, pour encaisser les développements colossaux de connaissances qu'ont produit les êtres humains.
Merci beaucoup, Baptiste.
Merci beaucoup.
Baptiste Le Bihan, et je rappelle ton livre « Qu'est-ce que le temps ?» chez Vrin. Et évidemment, je mettrai la référence, ainsi que toutes les autres, de cette émission en description. À bientôt.
À bientôt.
Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur Cause Commune 93.1 FM ou sur leur plateforme de podcast préférée. Dans le second cas, pensez à mettre des likes, des 5 étoiles et des machins comme ça. Et surtout, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode, s'il vous a plu, sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain, mercredi 22h, pour le prochain Science et Conscience.
Cause commune. La voix des communs.